EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Lifa Bombele qui nous vient de...
Belgique.
La Belgique, oui, je m'en ai dit d'autres choses. Mais bienvenue, pasteur Lifa. On vient tout juste de dire que le nom Bombele, en fait, ça fait un peu italien.
Ça sonne un peu italien, mais c'est totalement d'origine congolaise.
Ah, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'allais dire de l'Italie, mais c'est pas ça.
Non.
Tu habites à Mons, en Belgique, avec ton épouse, pasteur Emmanuel.
Oui.
Vous êtes pasteur d'une belle église, remplie de jeunes en feu.
Oui.
Papa de 5 enfants. Mm-hmm. Aussi avocat. Oui. On a vu hier aussi un sportif.
Ancien sportif, oui. Ancien footballeur professionnel. J'entraîne toujours, d'ailleurs, une équipe de jeunes.
Ah oui? Mm-hmm. OK. Et puis, aussi, tu es en politique.
Oui.
Donc, vraiment, tu touches à, ou tu as touché à plusieurs sphères d'influence.
Oui.
Et aujourd'hui, on va te poser la question, mais comment faire?
Oui.
Si on veut influencer notre monde. Hier, on a vu, en fait, que Dieu nous appelait à briller.
Oui.
Oui, nous sommes les enfants de Dieu. On va à l'église, comme on l'a vu hier.
Oui.
C'est important de se retrouver entre nos frères et nos sœurs et se célébrer mutuellement. On célèbre nos victoires et puis on s'encourage pour aller dehors, justement, à l'extérieur de nos quatre murs pour gagner des âmes à Christ.
Gagner des nations.
Amen. Gagner des nations. Toutes les ethnies possibles. Tous les peuples.
Oui.
Mais on a vu hier, en fait, qu'il y avait un certain défi parce que souvent, dans l'église, on se retrouve entre nous, dès qu'on devient enfant de Dieu, mais tu nous enseignes, en fait, que oui, nous sommes ensemble, mais pour aller vers l'extérieur, briller, nous sommes la lumière du monde. Et aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre maintenant, si on a accepté le message d'hier, on dit, oui, je veux briller pour Jésus. Lundi matin, quand je vais me rendre à mon travail, je veux briller pour Jésus. Comment est-ce que je peux faire vraiment pour influencer la société? Comment faire?
C'est ça. Parce que... je pense que le point de départ, c'est vraiment d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 nous en parle. Déjà, dès lors que vous êtes renouvelé dans votre mode de pensée, au moment où vous allez vous dire comment je vais faire pour entrer dans une sphère où je peux être influent pour Jésus, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous avez plusieurs sphères d'influence.
C'est vrai.
La Bible va nous dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit, dans Matthieu 28, 18, il dit ça. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il continue en disant, allez, faites de toutes les nations. Et ce qui est bien, c'est que quand il dit allez, oui, il y a une dimension de déplacement horizontal, vertical, pardon. On veut toucher ceux qui sont à côté de nous. Mais il y a aussi une dimension de déplacement vertical. Parce que lui-même va nous dire, ou plutôt la Bible va nous dire dans Philippiens 3, 20, qu'on n'est plus citoyen de ce monde, mais on est citoyen des cieux. Donc, en réalité, on a cette citoyenneté-là. On est finalement dans des lieux élevés avec Jésus. Mais on a le bras suffisamment long que pour tendre notre main et toucher les gens qui sont citoyens de ce monde et pour impacter leur vie. Et donc, dès que notre intelligence est renouvelée, on va s'interroger maintenant, quand j'étends mes bras, qu'est-ce que je touche? Quelles sont les sphères que je peux toucher qui sont à portée de ma main? Et on va se rendre compte que la sphère la plus proche de nous, d'ailleurs, c'est la famille.
OK, la famille. Donc, si on veut commencer à influencer quelqu'un, on commence dans notre salon, notre cuisine.
Tout simplement. La cuisine, ses enfants, c'est son mari. Et c'est tellement important de le dire parce qu'il y a beaucoup qui sont des croyants, nés de nouveau, qui ont leur conjoint qui ne le sont pas. Et ils ont du mal à les influencer. Ça commence par ça.
Absolument,
c'est témoigner Christ dans son salon, dans sa cuisine.
Amen.
Oui.
Des pasteurs aussi, des fois, ils vont passer beaucoup de temps à évangéliser dans les rues ou prêcher à l'église, et c'est bien de faire ça. Mais si nos enfants ne sont pas sauvés, il faut vraiment les avoir à cœur. Et puis moi, je crois que c'est vraiment mon premier ministère en tant qu'homme de Dieu. Mon premier ministère, c'est envers mes enfants, ma famille, qu'on puisse bien se porter spirituellement.
Exactement.
Et après, ensemble, on va gagner des âmes. Là, on est encore plus fort ensemble.
C'est plus fort, oui, effectivement, lorsqu'on est en famille. On est en train de montrer une image d'unité. Et puis, dès qu'il y a de l'unité, de toute façon, Christ aussi se manifeste avec sa puissance cette fois-ci. Et il y a une histoire, en fait, dans la Bible, l'histoire de la reine Esther, qui nous montre aussi un super témoignage de travail en famille. Puisque la reine Esther, en réalité, est la nièce de Mardoché.
Ouais.
Et Mardoché, ce qu'il va faire, alors que les parents d'Esther décèdent, il va l'adopter comme sa fille.
Ouais.
Et alors qu'il est en train de faire ce geste qui est finalement simple, mais un simple geste d'amour, va l'emmener, vous savez où? Dans la cour du roi. Il ne le savait pas encore à ce moment-là, mais il était en train de s'apprêter à influencer, à avoir un impact dans les nations, dans le lieu le plus élevé, mais simplement parce qu'il a pris, comme pour fille, sa nièce, il l'a emmenée dans sa maison, il l'a élevée, et c'était des juifs, donc il l'élevait dans l'éducation de la parole du Seigneur. Ouais. Et à ce moment-là, il était déjà en train de se préparer à impacter, à influencer, avoir un impact dans les nations. Mm-hmm. C'est merveilleux.
Oui, donc on peut vraiment s'investir dans notre propre famille.
Ouais.
Gloire à Dieu, c'est super.
Dès lors qu'on on entre dans cette première sphère-là, là, je pense que c'est vraiment le commencement des choses. C'est on est déjà en train d'avoir un impact, dans une influence dans les nations.
Mm-hmm.
Et maintenant, Esther, elle a été plus loin. Pour ceux qui connaissent son histoire, Esther, elle est entrée dans la maison du roi. Et il y a un passage, il y a un moment donné dans l'histoire, on va dire que Esther va recevoir, on va lui placer la couronne de la reine sur sa tête. Dans Esther chapitre 2 verset 17, on dit le roi plaça la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vatsi. Parce qu'en fait Esther, elle arrive dans un contexte où on cherche une remplaçante. Ça peut arriver dans le monde, ça peut arriver dans différents domaines, ça peut arriver dans un emploi séculier, au travail. Il y a une offre d'emploi qui sort, en réalité on cherche une remplaçante. Mais seulement c'est l'autorité qui va déterminer le mandat.
Ouais.
En réalité, on ne peut pas se choisir soi-même. C'est ceux qui sont placés en autorité qui vont pouvoir choisir. Mais ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'il y a une autorité suprême, c'est Jésus.
Amen.
Derrière celui qui a ce choix-là, il y a encore quelqu'un d'autre qui a cette force-là d'influencer ce choix-là, et ce choix-là, c'est Jésus. Des fois, vous savez, on voit des portes qui sont en train de se fermer, on exprime certains regrets, on a certaines tristesses, alors qu'il faut tout simplement se dire, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas mon mandat, il y a quelque chose de meilleur qui est en train d'arriver.
Ça, c'est tellement important, parce que je crois qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le deuil parfois, et se disent, ah, ben là, j'étais dans telle position, et là, on m'a enlevé quelque chose. Mais en fait, quand nous servons le Seigneur, les êtres humains n'ont aucune autorité pour nous enlever quelque chose. Parce que si je n'ai pas telle chose, c'est parce que Dieu avait prévu autre chose pour ma vie. Donc, je peux toujours être encouragé. Dieu nous dit, en fait, ben, dans la parole, l'apôtre Paul avait dit, « Soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu. » Soyez toujours joyeux. Comment être toujours joyeux? Bien, c'est si j'ai ma foi en lui, dans le Seigneur, et je me dis, en fait, puisque Dieu est ma source, Dieu est mon refuge, si telle chose m'arrive, bien, je crois que Dieu est en train de diriger ma vie. On peut regarder, par exemple, hier, j'ai mentionné rapidement l'histoire de Joseph. Bon, il a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais au final, Dieu a utilisé sa vie pour se glorifier et pour sauver l'Égypte. Donc, si on trouve notre consolation du fait que notre Dieu prend soin de nous.
Exactement.
Il y a cette faveur surnaturelle sur notre manteau. On peut avoir confiance que Dieu est en train de nous préparer notre chemin, le chemin qu'il a prévu pour nous.
C'est tellement vrai. Quand on regarde bien l'histoire justement que tu viens de citer, Joseph, il y a comme une porte qui est en train de se fermer. Mais c'était une porte d'un chemin. Mais c'était pas la porte de sa destinée. Sa destinée était toujours là devant lui. C'est juste que le Seigneur a fait concourir différentes circonstances négatives, défavorables, pour finalement lui faire du bien et faire du bien également à tout un peuple. Lorsque la reine Esther arrive au pouvoir, parce que finalement, c'est la couronne qui est placée sur sa tête, c'est le mandat qu'elle est en train de recevoir. Elle devient reine. Et nous recevons comme ça dans notre vie différents mandats. On va pouvoir entrer dans le foot. Ce sont des mandats qu'on reçoit très tôt en général. Pour ma part, j'ai commencé le football, j'avais l'âge de 5-6 ans. En fait, pour autant que je m'en souvienne, j'ai toujours joué au football. Et ce sont des mandats qu'on reçoit comme ça très tôt. Et par la suite, que le Seigneur va confirmer, ou alors peut-être qu'il va nous emmener dans un autre chemin. Mais de toute façon, celui qui a l'autorité, c'est lui qui détermine où vous devez aller, jusqu'à quand vous devez y aller, et vous devez poursuivre dans ce mandat-là, rester strictement dans ce mandat. Vous savez, en tant qu'avocat, j'ai vraiment appris à travailler, parce que les avocats travaillent uniquement sur base d'un mandat. C'est le client qui détermine mon mandat. C'est lui qui est, entre guillemets, en autorité sur moi. Moi, je peux seulement lui donner un conseil, lui dire tel moyen de défense, et je fais beaucoup de droit pénal, je peux dire que tel moyen de défense n'est pas le bon. Vous allez perdre si vous faites ça. Mm-hmm. Mais si maintenant il persévère en disant, OK, je préfère que vous utilisiez ce moyen de défense, je n'ai pas une obligation de résultat. J'ai une obligation de moyens. Je vais lui mettre tous les moyens, notamment les connaissances que, dont je dispose, à disposition pour qu'il puisse réussir dans son procès. Mais c'est lui qui choisit le mandat. C'est lui qui fixe les limites de mon mandat. Mm-hmm. Il y a quelqu'un, notre Dieu, Jésus, qui a fixé les limites de notre mandat dans différents ministères, dans le ministère notamment de l'Église. Il fixe notre mandat. Uh-huh. Certains vont être apôtres, certains vont être docteurs, certains vont être prophètes, certains vont être pasteurs, d'autres encore vont être enseignants. Et Dieu va fixer un mandat clair.
C'est ça.
Certains vont essayer de dépasser les limites de leur mandat. Mmh. Mais vous savez, le miraculeux n'arrive que quand on exerce notre ministère dans les limites.
C'est
notre mandat.
Faut en fait discerner et reconnaître nos limitations, oui. Mais aussi reconnaître l'appel et le mandat de quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Ça va nous aider à ne pas être frustrés. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais pasteur associé dans une église. Mm-hmm. Et puis, en tant que pasteur, j'avais discerné un problème dans l'église.
Oui.
Je suis allé voir le pasteur senior.
Oui.
Je lui ai communiqué, j'ai dit, voici pasteur, telle situation que je perçois. Et puis, il m'a dit... pour telle raison, il voulait permettre cette chose-là dans l'Église. Et pour moi, je trouvais ça, non, c'est pas correct.
Oui.
Mais là, puisque j'avais été voir le pasteur senior, là, j'ai parlé avec mon épouse à l'époque, j'ai dit, moi, j'ai fait ce que j'ai pu devant Dieu.
Oui.
Bon, comme je peux me laver les mains de cette situation, parce que je suis allé vraiment à la limite de mon mandat.
Oui.
Et puis là, bien, le restant, ça appartient à lui. Et puis, Dieu va le bénir ou le juger, bref. Mais en gros, je pense que si on dépasse, en fait, nos limites, ou le diable aussi, ce qu'il veut faire, c'est nous frustrer par des distractions.
Exactement.
L'autre fois, j'ai aidé quelqu'un qui avait un certain défi dans sa vie. Bon, je l'encourageais. Mais là, au lieu de vivre ou de se concentrer sur sa victoire à venir, là, et là, il y a des choses que je dois faire pour marcher dans la victoire, j'ai commencé à me poser des questions sur des gens dans l'Église. J'ai dit, un instant, j'ai dit, ça, c'est pas ton mandat.
Oui.
Et en fait, quand je prends le mandat de quelqu'un d'autre, là, je vais être distrait.
Exactement.
Je vais perdre le focus. Au lieu d'avancer, là, j'étais en train d'avancer, mais là, je m'arrête pour m'attarder à d'autres choses. Donc, mon mandat, si je suis en tant qu'avocat, bon, mon client exige telle chose, je vais travailler là-dessus pour remporter la victoire pour lui.
Oui. Je pense que c'est le pasteur Martorano qui m'avait illustré un peu ce que tu es en train de dire de cette manière. Il disait, on court tous la même course, mais chacun a son couloir.
Mm-hmm.
Et finalement, on est tous dans ce même cours, mais quand on court dans le couloir de quelqu'un d'autre, c'est comme si on est moins à l'aise. On n'est pas à l'aise finalement dans cette course et c'était très bien illustré finalement.
Mm-hmm.
Donc oui, on entre dans cette sphère d'influence là par un mandat bien défini. Notre Dieu va nous fixer certaines limites, mais par contre, entrer dans un ministère ou entrer dans une sphère d'influence ne limite pas notre champ d'action. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui vont entrer, qui vont être bénies. Ils vont entrer dans une sphère d'influence, dans un lieu, dans un poste à responsabilité. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se taire. Ils vont se taire au sujet de leurs convictions. Ils vont se taire au sujet de leur foi. Ils vont se taire au sujet du témoignage de Jésus-Christ dans leur vie. En fait, ils vont comme se taire parce que ils ont le sentiment que il faut pas perdre cette chance qu'ils ont reçue. Mais à ce moment-là, c'est un compromis. Quand on agit comme ça, c'est comme si on pensait que cette sphère, cet employeur, ce sport, ou peu importe le domaine dans lequel on est, devenait une autre source.
Mm-hmm.
En réalité, ce ne sont que des ressources.
C'est
une ressource que Dieu utilise pour nous bénir.
Exactement.
Et à vivre comme si ces choses-là étaient des sources, lorsqu'on est coupé de cette source-là, c'est comme si on perdait tout.
Mm-hmm.
Si la reine Esther perdait la royauté et qu'elle agissait comme si c'était finalement devenu toute sa vie, c'est comme si elle perdait tout.
Mm-hmm.
Si nous agissons comme si, alors que je suis pasteur, je perds mon église, c'est comme si j'agis, comme si ce n'est plus l'église de Jésus-Christ dans laquelle il m'a placé, et je perds tout.
Mm-hmm.
Mais en réalité, je peux perdre toutes les choses matérielles du monde, je ne perdrai jamais Jésus.
C'est ça.
Il restera, il demeurera toujours ma source.
Amen.
Et il y a une chose que Esther a dû se rendre compte, c'est que... elle ne pouvait pas se taire lorsqu'elle était entrée dans ce poste à responsabilité. Tellement que lorsque Mardoché vient lui expliquer le plan d'Aman, le plan de destruction de son peuple, elle a eu peur d'abord. Elle a eu peur parce qu'elle va dire, mais le roi, il y a une loi qui dit que si on entre dans la maison du roi sans avoir été invité, on est puni de mort.
Ouais.
Et donc, elle prend peur. Et là, Mardochée la rappelle à l'ordre. Et rappelez-vous qu'elle a toujours été finalement aux ordres de Mardochée, même dans la cour du roi. C'est normal parce que sa première influence, sa première sphère d'influence à Esther, c'était sa famille.
C'est ça, son oncle.
Son oncle. C'était lui sa première sphère d'influence. Ouais. Et là, je veux vraiment encourager tous les parents. Vous élevez des enfants qui vont avoir des destinées énormes. Et en fait, pendant que vous êtes en train de les élever, vous êtes en train d'élever des nations. Parce qu'ils vont peut-être entrer dans des gouvernements, ils vont entrer dans des métiers à responsabilité, et vous demeurerez leur première sphère d'influence.
C'est ça.
Ouais. C'est énorme. Et ce qu'elle fait ensuite, Mardochée la rappelle à l'ordre, il lui dit, mais en réalité, si tu te tais maintenant, le secours viendra de quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Donc, limite, tu seras entré dans cette sphère d'influence pour rien. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
Amen. Oui, c'est ça.
Et le mandat qu'on reçoit, la sphère d'influence dans laquelle on entre ne limite pas notre liberté d'action. On a le droit de témoigner Jésus. On entre dans cette sphère d'action, mais on doit continuer à être un modèle, un modèle en action, un modèle en parole. C'est-à-dire qu'il faut continuer à parler de Jésus-Christ, peu importe, même si c'est au gouvernement, même si vous êtes juge, même si je ne sais quoi encore vous êtes. Continuez de témoigner de Christ dans votre sphère d'influence.
C'est ça. Le diable est rusé, mais nous, on peut être plus rusé que lui.
Oui, parce
qu'on a le Saint-Esprit qui connaît toutes choses.
Oui.
Et puis, il peut nous dire quoi dire, quand le dire. Et vraiment, c'est ça qui est merveilleux. On n'est pas tout seul là-dedans. Dieu nous appelle à briller, mais le Saint-Esprit est là. Il peut vraiment nous parler la nuit. Moi, j'ai eu des moments où Dieu me donnait des rêves prophétiques concernant des rencontres que je devais avoir le lendemain. C'est tellement merveilleux d'être connecté au Saint-Esprit parce que, au final, c'est lui aussi qui veut qu'on brille.
Exactement.
Il veut qu'on brille, il veut nous équiper.
Ouais.
Mais on a simplement besoin de vraiment être conscient que, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Ouais.
Et dis-moi, Pasteur Lifa, bon, on a vu hier que tu as touché aux sept sphères d'influence. Tu nous as parlé que tu étais un footballeur professionnel. Pour ceux qui sont là à la maison, qui disent, mais comment tu as fait là, pour commencer dans le football, par exemple? Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement?
Oui, en fait, je vous disais que les parents ont toujours ce rôle-là d'être notre première sphère d'influence. Et donc, un jour, mes parents ont décidé de m'inscrire parce qu'ils me voyaient jouer dans leur salon tous les jours, casser des vitres avec mon ballon. J'ai joué avec mon frère jumeau à ce moment-là. Et ils se sont dit, déjà, pour sauver les meubles de la maison, il vaut mieux les inscrire au football. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après, il s'est avéré que on avait un énorme potentiel. Donc, on a été repéré très vite par un premier club et puis par le plus grand club de Belgique, le Sporting d'Anderlecht, là où on a fait nos classes en tant que jeunes. Avant ensuite de signer à l'âge.
Avec quel âge là?
Et là, je parle à Anderlecht. Là, on avait 12 à 15 ans.
Ok.
Et après, à 15 ans, on a signé notre premier contrat semi-professionnel, en fait, pour un club.
Ok.
Où là, ils nous ont donné appartement. On avait
voilà, 15 ans.
D'avantage à 15 ans. On avait déjà. C'est à cet âge-là qu'on peut signer un peu un premier contrat qui est un peu rémunérateur. Et donc, on avait justement un salaire, etc.
À 15 ans?
À 15 ans.
On parle bien de 15 ans.
C'est glorieux, ça? Oui. Et c'est dans ce club-là, donc le club de la Louvière, que je suis parvenu donc en équipe première. Je jouais à ce moment-là aussi en équipe nationale Espoir du Congo. Et voilà, donc j'avais vraiment ce devenir-là dans le sport. Et quelque chose s'est passé dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré Christ à l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai fait venir dans ma vie une autre sphère d'influence, la sphère religieuse, comme on dit, même si on n'est pas religieux. Et cette sphère-là, étant dans cette nouvelle vie, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, OK, jusqu'à présent, tu es en train de poursuivre ton rêve d'enfant, mais j'ai un rêve, j'ai un nouveau rêve pour toi et j'ai formé pour toi des plans de paix et non de malheur. Et là, le Seigneur m'a dit, tu annonceras la justice. Et tu seras meneur d'homme. Alors, j'avoue que ça m'a bouleversé, parce que déjà, premièrement, je ne connaissais pas tout ce vocabulaire, je ne connaissais rien à ça. Et ça m'a bouleversé aussi parce que ça signifiait, que je devais changer un peu ma manière de courir, le couloir dans lequel j'étais justement.
Ouais.
Et donc, j'étais à l'âge de 18 ans, c'était le moment où je devais faire ce choix-là, d'entrer à l'université. Ayant reçu cette révélation du Seigneur, j'ai commencé donc mes études de droit à la faculté. Okay. Alors, c'est pas du tout la même chose, courir après un ballon et étudier. Et je me rappelle encore des profs à qui je disais, eh bien, finalement, même si je joue au foot à un niveau professionnel, eh bien, je pense que je vais m'inscrire en droit. Et vous savez, limite, ils se retenaient de rigoler, quoi. Parce que il voulait dire, mais il a perdu la tête. les joueurs de foot gagnent super bien leur vie. Et puis, voilà, l'école, c'est pas trop, vous savez, moi, quand j'étais à la fac, j'étais encore, donc, footballeur professionnel. Je m'entraînais deux fois la journée. Donc, je m'entraînais une fois à 10 heures, une fois à 15 heures. Et après ça, je quittais le football, le stade, pour aller à la fac récupérer les notes des cours qui s'étaient déroulés au même moment finalement que j'étais en train de m'entraîner. Donc c'était vraiment une mission impossible en fait.
Wow.
Mais le Seigneur m'a vraiment a été un celui qui a joué ce rôle-là d'influenceur dans ma vie.
Mm-hmm. Mais tu dis que Dieu t'a parlé concernant, t'as reçu une révélation, oui, comme quoi il t'appelait dans le monde de la justice et devenir avocat.
Oui.
Mais t'avais ce rêve-là aussi dans ton cœur, n'est-ce pas?
Eh bien, en fait, j'ai toujours porté dans un coin de mon cœur, je pense que les desseins de l'Éternel sont vraiment gravés en nous.
Mm-hmm.
Je me suis toujours dit, si c'est pas le foot, c'est le droit, mais rien d'autre. Rien d'autre, parce que moi, les maths, les sciences, ça me donnait des boutons. Et c'est vrai que j'ai toujours eu dans un coin de mon cœur le droit. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu cette révélation, je me suis dit, oui, de toute façon, si c'est pas le foot, c'est ça. Mais d'abord le foot, d'abord laissons une chance au foot. Et en réalité, ce que Dieu était venu me dire, non, ça sera d'abord ça. C'est d'abord mon plan. Et quelque part, c'est aussi un pas de foi que d'arrêter, ou en tout cas diminuer ce qu'on est en train de faire depuis tellement longtemps,
ouais,
pour suivre un projet qui vient de Dieu.
Pour entrer dans les plans de Dieu, là, il y a des gens, par exemple, qui sont dans une situation difficile et puis se disent, ah, je ne peux pas.
Oui.
Je ne peux pas accéder à d'autres choses. Mais aussi, on peut être dans quelque chose de très merveilleux,
oui,
et dire, ben, je ne peux pas faire d'autres choses parce que ben, là, c'est trop merveilleux.
Oui.
Peu importe, oui, que ce soit difficile ou facile et merveilleux,
mm-hmm,
bien, on a besoin de répondre à l'appel de Dieu.
Bien
c'est
sûr.
Une question d'obéissance, n'est-ce,
oui,
pas?
Oui.
Et c'est une question de foi aussi. Par exemple, peut-être quelqu'un qui vit une situation difficile, qui voudrait ou qui rêverait d'être un avocat,
oui,
peut-être les gens vont dire, bien, t'as pas l'argent pour faire ses études, mm-hmm, t'as pas la capacité intellectuelle, ou mm-hmm, bref, on pourrait avoir toutes sortes de raisons pour, oui, décourager quelqu'un. Mais quelqu'un aussi peut être béni, comme toi, là, un joueur de football professionnel, mm-hmm, et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mettre de côté ce grand privilège.
Oui.
Et,
oui,
et puis finalement, on peut être influencé par les mauvaises voix aussi.
C'est ça.
Hein, et
c'est ça,
passer à côté de l'appel de Dieu sur notre vie. Je, oui, pense que
c'est tellement vrai.
C'est tellement important d'avoir cette relation avec Dieu parce que Dieu connaît. Enfin, c'est lui qui prépare le chemin.
Ouais.
Il a des et nous avons des chemins tout tracés à, ouais, l'intérieur.
Ouais.
Donc, si on prend ce temps-là avec le Seigneur, on prie, on cherche la face de Dieu,
mm,
bien sa voix va être amplifiée en nous.
Exactement.
Il va nous donner les désirs de notre cœur, parce, ouais, qu'en fait, c'est lui qui a déposé dans nos cœurs
ses désirs. Oui.
C'est ça qui est merveilleux. Donc,
c'est ça qui est merveilleux.
Au lieu de dire Seigneur, voici mon plan, bénis mon plan,
non,
on dit Seigneur, quel est ton plan,
ouais,
et ce plan est déjà béni.
Nous devrions arrêter vraiment d'inviter Dieu dans nos projets qu'on a déjà mis en place,
ouais,
mais plutôt laisser Dieu être à la base de ces projets-là,
mmh,
pour pouvoir courir avec lui dès le commencement.
Amen.
C'est pas en cours de route qu'on va commencer à dire « Seigneur, viens parce que j'ai déjà commencé ça, mmh, et j'aimerais bien l'amener au bout. » Non, Seigneur, sois avec moi dès les premiers instants.
Amen.
Et on est sûr qu'on va aller jusqu'au bout parce que la tempête va souffler à un moment donné,
mmh,
et il faut être sûr de marcher dans les voies du Seigneur.
Amen.
À ce moment-là. C'est lui qui va nous porter.
Absolument. Et ce que tu dis, c'est exactement ce que je disais, moi, avant, ouais, d'accepter l'appel de Dieu sur ma vie.
Ouais.
J'ai été élevé chrétiennement, j'ai vu ma parenté dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu que c'était difficile parfois.
Ouais. Ouais.
Et je savais que quand le Seigneur m'appelait, j'ai dit, je dois être 100% certain parce que quand, mmh, les vents, mmh, vont souffler, Pas si, mais quand, quand les vents vont souffler, je vais être convaincu d'être appelé. Sinon, je vais pas, je vais pas me
tenir. On va pas tenir.
On veut vraiment persévérer. Donc, en terminant cette émission, on a quelques minutes encore. Oui. J'aimerais ça t'inviter, Pasteur Lifa. Est-ce que tu pourrais prier pour les personnes à la maison qui sont là, qui disent, ah, je veux entrer dans cette sphère d'influence que je crois que Dieu m'appelle, mais peut-être, certains d'entre vous, peut-être vous êtes en train de vous questionner, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? J'ai besoin de clarté à ce niveau-là. Et Pasteur Lifa, prie pour ces gens-là à la maison qui ont besoin.
Je sens vraiment que dans le cœur de quelqu'un, il y a quelqu'un qui est troublé en ce moment. Il est troublé parce qu'il sent cet appel-là et il sent que cet appel-là est à l'opposé de ce qu'il a toujours vécu dans sa vie. Et j'aimerais te dire que la parole de Dieu est vraiment cette fondation sur laquelle toute chose peut être bâtie. Si tu es basé, fondé sur cette parole qui est le roc, tu ne vas jamais fléchir, tu ne vas jamais chuter. Tu seras toujours enraciné en Christ. Et peut-être que ce chemin dans lequel tu es actuellement, c'est un chemin où tu sens que tu es béni, mais sache que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour ça que tu as vraiment besoin d'être fermement enraciné dans cet appel-là. Et je vais prier pour toi maintenant.
Amen.
Seigneur, je prie que tu affermisses les voix de ma sœur, les voix de mon frère, et qu'elles soient affermies en toi, Seigneur.
Amen.
Seigneur, que tu rediriges, que tu réorganises tous les projets qui étaient dans notre cœur et qui ne correspondaient pas à ta volonté, et que tu les sanctifies, que tu les enracines désormais dans ta parole. Nous voulons, Père, que ta volonté seule s'accomplisse.
Amen.
Seulement ta volonté. Si même le Christ a dû prier pour cette volonté qui était tellement dure, nous également, nous voulons élever nos voix pour mon frère, pour ma sœur qui souhaite entrer dans cette volonté qui est tellement dure. Mais derrière, Seigneur, tu vas bénir. Derrière, Seigneur, tu vas ouvrir un chemin extraordinaire pour être la lumière des nations. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Lifa. Je vais lire un texte dans la parole qu'on a déjà cité aujourd'hui dans Jérémie 29, 11. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et maintenant, au verset 12, nous lisons, « Vous m'invoquerez, c'est-à-dire vous allez me prier, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai.
Amen.
Vous me chercherez, et vous me trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. J'aimerais ça vous dire en terminant. Si vous êtes là et vous êtes à la recherche de la volonté de Dieu pour votre vie, visitez le site web emcitv.com. J'ai fait une série dans le cadre de l'émission In Studio. En fait, c'est comment trouver sa destinée. Faites une recherche sur emctv.com. J'ai fait une série pour vous expliquer comment moi, j'ai découvert l'appel de Dieu sur ma vie et comment vous pouvez aussi découvrir son appel. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez dans les ténèbres, en train d'essayer de trouver le chemin. Dieu a un chemin pour vous. Il veut vraiment que vous puissiez marcher sur ce chemin dans la paix et dans la joie. C'est comme ça que Dieu dirige, toujours dans la paix et dans la joie. Et on devrait aussi être conscient de l'absence de la paix. Quand on ressent il y a quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose ne va pas bien. Et puis, on doit s'arrêter aussi et discerner ces choses. Donc, vraiment, je veux vous encourager, cherchez le Seigneur parce que sa parole, la parole de Dieu dit, il va se laisser trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Lifa.
Merci beaucoup, Pasteur Joël.
Amen. Nous avons été bénis et merci à vous d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude biblique. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.